Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission Et si on en parlait, en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, nous allons aborder la question qui est très présente depuis fort longtemps, mais qui revient sur le devant de la scène de l'état de la justice en France. On a effectivement décidé d'aborder ce sujet notamment, mais on en parlera avec nos invités, suite à une tribune rare de plus de 3000 magistrats qui, dans le cadre de la préparation des états généraux, ont souhaité faire entendre leur malaise, leur mal-être. Pour en parler avec nous, notre invité, c'est Guillaume Didier. Bonjour.
Bonjour, Alexis Bachelet.
Alors, je rappelle que vous avez été magistrat, mais vous êtes aujourd'hui en disponibilité puisque vous êtes devenu directeur général délégué de Vaillé-Solis, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Vous avez également été ancien porte-parole et même le premier porte-parole du ministère de la Justice de 2007 à 2011. Et donc, on avait envie de vous entendre sur ces prises de position multiples et cette justice un petit peu en crise, mais au fond, le malaise vient de beaucoup plus loin. Et bien, il y a la question des moyens, la question des délais, la question des effectifs. Et puis est venu se rajouter une dimension un peu humaine parce que on a eu pour la première fois des magistrats qui ont pris des exemples de la manière dont ils rendent la justice aujourd'hui. Et finalement, ils expliquent qu'ils ont un dilemme permanent. Si on juge plus vite, on va moins bien juger. Et si on juge bien, les délais deviennent inacceptables. Quel est votre regard sur ce cri d'alarme de vos anciens collègues?
Mon regard, il est triste. C'est un regard attristé parce que il est vrai que la justice est en crise. Vous l'avez dit très justement, cette crise, elle est ancienne, elle est profonde. Certains disent que la mobilisation des magistrats et des avocats est historique. Je n'aime pas ce terme historique parce que chaque quinquennat, chaque garde des Sceaux connaît une démobilisation importante des professionnels de la justice. Ce qui est certain, c'est que cette crise, cette mobilisation importante des magistrats avec la signature de cette tribune, hein, plusieurs milliers de magistrats, élèves magistrats, fonctionnaires, greffiers ont signé cette tribune, est un nouveau signal fort d'une institution judiciaire qui est malmenée, qui est mal équipée et qui connaît des difficultés pratiques. Ces difficultés pratiques ont des conséquences aussi pour le justiciable. Donc, regard attristé parce que l'institution judiciaire est une très très belle institution, la mission de juger est une très belle mission, mais il faut reconnaître que mes collègues, mes anciens collègues, mais aussi les avocats vivent très mal leur travail au quotidien dans les juridictions.
Alors il faut rappeler quelques indicateurs hein, par rapport au fonctionnement de la justice en France. On est quand même dans le deuxième paquet des pays en Europe par rapport à la dépense par habitant, hein, puisqu'on on dépense environ, alors là ça a un tout petit peu augmenté parce que le gouvernement récemment a donné quelques moyens supplémentaires au budget, mais globalement on est à peu près à 65-70 euros de dépenses par habitant pour le fonctionnement de la justice, quand un pays comme l'Allemagne est à 120 euros. Et même des pays comme l'Italie, l'Espagne sont des pays qui dépensent plus d'argent que le gouvernement français, que l'État français, pour faire fonctionner la justice. Est-ce que c'est pas déjà par là qu'il faudrait commencer ?
Alors, les comparaisons elles sont quand même compliquées, parce que nous avons des systèmes judiciaires, même en Europe, qui sont très différents. Donc, il ne faut pas forcément toujours penser à dépenser plus, il faut aussi dépenser mieux. Donc c'est classement, je m'en méfie. Vous voyez, par exemple, l'Allemagne, il y a autant de ministres de la justice qu'il y a de Länder. Donc en fait, ça fausse un petit peu les choses. Mais ce qui est certain, alors là, pour le coup, il ne faut pas se mentir, c'est que la justice française est de manière chronique et depuis des décennies en sous-investissement avec un budget notoirement insuffisant. Donc je me méfie des classements parce que chaque système judiciaire a ses particularités. On n'a pas forcément besoin de énormément plus de magistrats, même si bien sûr si on avait plus ce serait bien, mais c'est peut-être aussi les greffiers qui manquent en nombre. Il y a encore un effort à faire sur les greffiers, il y a un effort à faire en termes d'informatique, il y a un effort à faire en termes d'équipement. Bien évidemment, tant mieux si on peut augmenter le nombre de magistrats, mais chaque système est unique. Mais il est vrai que la justice n'est pas un ministère qui est bien doté budgétairement. Alors, vous l'avez dit, des efforts ont été faits. C'est le seul ministère dont le budget augmente systématiquement année après année, mais il augmente de manière insuffisante. Donc, je pense que la vraie question, c'est quel sera le chef de l'État, quel sera le Premier ministre qui sera capable d'augmenter très sensiblement le budget. On a aujourd'hui des augmentations de budget, il faut le dire, qui sont très importantes, avec plus 8% deux années consécutives. Éric Dupond-Moretti, Emmanuel Macron dotent, et le Premier ministre dotent la justice d'augmentations sensibles, mais elles restent insuffisantes. En gros, il faudrait presque doubler le budget du ministère. Et ça, c'est un problème de priorité. On paye aussi le fait que la justice est très méconnue de nos concitoyens, très méconnue de ce qu'on appelle, pardon, nos élites, hein, publiques ou privées. Je pense que la classe politique, peut-être vous pouvez vous témoigner, Alexis Vachet, mais c'est vrai que la classe politique connaît finalement peu mal le fonctionnement de la justice, et c'est rarement un ministère prioritaire. Donc c'est un ministère qui fait peur, et je pense qu'il faudrait vraiment prendre le temps de, ça pourrait être un enjeu d'une campagne présidentielle, de faire un audit sur les véritables besoins du ministère de la Justice. C'est aussi un ministère qui a besoin de se réformer, et là aussi, il va peut-être falloir aussi vaincre les réticences de ce milieu, et j'en suis issu, hein, donc je m'inclus dedans, qui est assez conservateur, qui n'aime pas beaucoup les réformes.
Oui, alors justement, on sait bien que c'est compliqué de réformer la justice, parce que quand les réformes émanent du pouvoir politique, il y a toujours une forme de suspicion, et toujours cette crainte d'une reprise en main du politique, parce qu'on sait que l'indépendance de la justice en France a été un combat et peut rester encore un combat parfois. Donc du coup, c'est vrai qu'on a souvent une forme d'immobilisme, quoi. Voilà, une sorte de manque d'ambition. Et là, peut-être qu'on arrive au bout en fait de cette Exactement. Forme d'immobilisme, et que je vais reprendre un mot très fort qui a été évoqué par notamment l'appel des magistrats, c'est la désespérance collective de la magistrature. C'est quand même rare, alors que vous voyez, on a l'image de magistrats, des gens, je dirais, très très calmes, très dignes, qui rendent la justice avec une forme de solennité. On n'imagine pas des gens remplis d'état d'âme et qui sont en souffrance perpétuelle.
Le mot désespérance est effectivement extrêmement fort, très inquiétant. Je le crois sincère. Hein, ces collègues qui ont signé cette tribune en masse sont évidemment sincères. Je retiens aussi les paroles de la procureure de Versailles, Marie-Yvonne Caillebotte, qui était ce matin interviewée sur une autre radio, qui disait que malgré tout, malgré ses difficultés, elle aimait son métier. Je pense qu'il faut vraiment que vos auditeurs comprennent une chose, c'est que les magistrats aiment leur métier, les avocats qui sont quand même aussi tous les jours dans les juridictions aiment leur métier, les greffiers, les fonctionnaires aiment leur métier. Mais c'est vrai que on sent là une généralisation du mal-être, ce qui est assez inquiétant. Et tout n'est pas une question de budget, hein. Il y a aussi des questions de management, il y a aussi des questions de meilleure organisation.
Et de conditions de travail matériel, y compris avoir le matériel qu'il faut pour remplir ses tâches, quoi.
Le matériel, l'informatique, voilà, c'est le quotidien d'une juridiction. On est aussi peut-être un peu trompé par certaines juridictions qui, heureusement, sont bien dotées. Je pense que quand on voit certains tribunaux, je pense au tribunal judiciaire de Paris, qui fait l'objet de critiques pour son architecture, etc. Mais enfin, je pense quand même qu'il permet des bonnes conditions de travail aux magistrats, des salles d'audience nombreuses et spacieuses. Il y a aussi des juridictions où on l'a vu, les salles sont notoirement insuffisantes, il y a des fuites dans les plafonds. Enfin, c'est vrai que la justice peut donner l'apparence d'être sinistrée. Alors pour autant, elle est rendue par des magistrats, des fonctionnaires qui sont pleins de bonne volonté. Il faut absolument que toute la classe politique, il ne faut pas faire de politique dans ce sujet, c'est pas la droite, la gauche, Emmanuel Macron, etc., peu importe. Je pense qu'il faut que toute la classe politique se mobilise pour se dire qu'il faut vraiment, et ça sera, je pense, l'enjeu du prochain quinquennat, redonner la confiance dans les gens qui rendent la justice, pour lutter contre cette désespérance, pour que les Français retrouvent aussi confiance dans leur justice. Parce que, très concrètement, ça a des conséquences. tout le monde n'a pas vocation à se retrouver devant un tribunal correctionnel, mais tout le monde a vocation, enfin je l'espère en tout cas, tout le monde a vocation en revanche à se trouver devant un juge d'affaires familiales, devant un juge des tutelles, enfin voilà, donc la justice, c'est pas que la justice pénale, c'est aussi la justice civile, et cette justice, elle peut toucher tout le monde. Donc la justice civile, la justice pénale mérite de retrouver un mode de fonctionnement qui permette du coup une plus grande confiance de la part des professionnels qui la rendent, mais aussi de la part des justiciables et de nos concitoyens.
Oui, avec quand même aussi des vraies situations douloureuses quand on sait que parfois il faut plus de 18 mois ou même parfois plus de 2 ans. J'ai connu ça dans des gens proches, pour obtenir un jugement de divorce ou exécuter une mesure d'assistance éducative d'un enfant en danger. C'est quand même des délais qui sont extrêmement longs et qui pèsent aussi sur la vie des gens, puisque les gens ne peuvent pas refaire leur vie. Le jugement, c'est souvent la fin de quelque chose et ça permet de repartir aussi sur autre chose ou de protéger des femmes battues ou des enfants qui subissent des violences, par exemple.
C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. Ces délais sont insupportables. Ils sont insupportables évidemment pour le justiciable qui est concerné. Mais mettez-vous à la place de l'avocat qui annonce à son client des délais tels que cela.
Des reports à un ou deux ans.
Mais comprenez bien, c'est pris comme une violence par le justiciable, mais c'est très douloureux pour le professionnel de justice qui doit prendre cette décision. Alors maintenant, voilà, il faut prendre les choses à bras le corps. Je pense que c'est la vertu de ce mouvement d'essayer de faire un électrochoc. Vous savez, la justice n'a jamais été une priorité dans les campagnes électorales présidentielles. Jamais. Si, sur le thème de la sécurité, ce qui est important, hein.
Et des peines, on se rappelle les débats sur les peines planchers, sur les places de prison, on parle beaucoup de création de places de prison, mais rarement de création de postes de magistrats ou de greffiers.
Voilà, et pour autant, je pense que c'est à chacun de prendre sa responsabilité, et à chacun de voir les augmentations du budget du ministère de la Justice ces dernières décennies, et de constater que ceux qui donnent le plus de leçons ne sont pas forcément ceux qui ont le mieux loti la justice. Donc aujourd'hui, sans faire de politique, on peut quand même saluer deux années consécutives d'augmentation de budget importante avec plus de 8%, même si évidemment, et je ne le nie pas, c'est encore totalement insuffisant.
Alors c'est vrai que le gouvernement essaye de créer des espaces de discussion, mais c'est parfois ambigu parce que vous voyez, les états généraux de la justice se sont ouverts à Poitiers le 18 octobre dernier. Et donc c'était une manière aussi de répondre à ce malaise et d'essayer de construire peut-être des évolutions ou des réformes avec les acteurs de la justice. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que ces états généraux, c'est aussi une réponse aux critiques émises par la police nationale, et notamment lors d'une manifestation où il y avait eu des propos extrêmement durs, où en gros les policiers disaient c'est à cause de la justice qu'on peut pas rétablir la sécurité dans le pays. Hein. Je vais à très très vite, mais enfin, il y a eu des syndicats policiers qui tenaient des propos et qui mettaient en cause vraiment les magistrats et la manière dont la réponse pénale était pour eux inexistante ou insuffisante.
Oui, mais ça, ce débat-là, il est encore, il date depuis des décennies. Enfin, je veux dire, il a toujours existé. Il y a toujours une opposition, il y a toujours une caricature du côté de certains syndicats de police, du côté de certains politiques. Je pense quand même que la magistrature dispose de pouvoirs très importants. Lorsque vous êtes juge, vous avez le pouvoir de placer en détention, vous avez le pouvoir de condamner, vous avez le pouvoir de placer des enfants, vous avez le pouvoir de prononcer des peines extrêmement importantes. Je pense que la contrepartie de ce pouvoir, c'est aussi d'accepter d'être critiqué dans le respect des principes républicains. Enfin, voilà, donc moi, j'ai été juge d'instruction, j'étais président d'audience correctionnelle. Oui, je sais que mes décisions, elles n'étaient pas forcément toujours bien prises par les policiers quand je refusais, par exemple, de mettre en examen quelqu'un ou de le placer en détention provisoire. Bon, mais ça fait un peu partie des risques du métier, tant que c'est dans le respect des principes républicains. Je pense que, en revanche, en dotant la justice de moyens et en lui permettant de remplir sa mission dans de bons délais, ça lui permettra de mieux supporter ses critiques. C'est un peu le principe d'une démocratie. Dans une démocratie, on a le droit de critiquer, c'est mon point de vue, hein, de critiquer les journalistes, on a aussi le droit de critiquer l'institution judiciaire tant que ça reste respectable. Après, ce qui est vrai, et c'est, je crois, le vrai message que portent les magistrats et les avocats qui s'associent, les fonctionnaires qui s'associent à cette tribune, c'est que il faut maintenant doter la justice des moyens de travailler et de rendre cette mission qui est si importante pour nos pays citoyens dans de très bonnes conditions. Ça, c'est la priorité pour moi.
En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions, Guillaume Didier, parce que c'est un sujet important, la manière dont la justice est rendue, parce que ça participe eh bien, au fonctionnement apaisé d'une démocratie et d'un état de droit où chacun considère qu'il est traité équitablement.
Et c'est pour ça que... Et merci de mettre la justice à la une de vos émissions aujourd'hui, parce que effectivement, je pense que tout le monde doit se sentir concerné par cette belle institution qui joue un rôle extrêmement important.
Et on le fait autant que faire se peut. Et on vous remercie, Guillaume Didier. Je rappelle que vous êtes magistrat en disponibilité, ancien porte-parole du ministère de la Justice entre 2007 et 2011, et aujourd'hui directeur général délégué de Vaisolis, cabinet de conseil en stratégie. Et vous avez accepté de revisiter vos années passées dans la magistrature. Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission consacrée aujourd'hui à la justice en crise, les moyens insuffisants, les délais trop longs, les coûts trop élevés, les effectifs trop faibles. C'est des constats qui ont été faits depuis longtemps, qui sont partagés par tous les acteurs qui font fonctionner la justice en France. Et pourtant, aujourd'hui, il y a eu cet appel des magistrats qui rajoute un petit peu au malaise. Pour en parler dans la deuxième partie de l'émission, nous accueillons Mathieu Boissavi. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et New York, également vice-président de la commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux. Et à ce titre, vous aviez d'ailleurs, il y a quelques années maintenant, écrit avec Thomas Clay un ouvrage qui s'appelait « Reconstruire la justice ». Et ça date de quelques années maintenant, c'était en 2006. Le livre est sorti à l'époque aux éditions Odile Jacob. Et finalement, tout ce que disent vos confrères, tout ce que disent les magistrats, c'est ce que vous écriviez déjà il y a beaucoup d'années. La justice, elle est en crise et il y a de multiples raisons à cela.
Oui, tout à fait. Le manque de moyens alloués aux juridictions n'est pas une nouveauté. C'est un problème qui date de nombreuses années et qui perdure malheureusement encore.
Et donc ce manque de moyens, comment vous analysez le fait que c'est assez rare que les magistrats s'expriment et s'expriment fortement. Quelle est la goutte d'eau finalement pour vous qui fait déborder le vase et qui amène un nombre d'entre eux à parler aujourd'hui de désespérance collective?
Ce mouvement de protestation des magistrats, des greffiers, des personnels de justice et des avocats, car dans cette affaire nous sommes tous solidaires, ce mouvement il est effectivement inédit dans l'histoire judiciaire en France. Je ne connais pas un tel mouvement depuis, je dirais, le XVIIIe siècle, lorsque, avant la Révolution, les parlements provoquaient des conflits avec le gouvernement de l'époque. Depuis lors, depuis la réforme de la magistrature, notamment par Napoléon, les magistrats ne s'expriment jamais publiquement sur les problèmes qu'ils rencontrent, alors mis à part aujourd'hui leur syndicat, mais le fait que des magistrats, même non syndiqués, s'expriment publiquement pour dénoncer le manque de moyens alloués aux juridictions et ses conséquences pour les justiciables, c'est un mouvement inédit. C'est d'autant plus remarquable que les magistrats et les greffiers sont des personnes dévouées qu'elles ont. Ils ont prêté serment pour remplir une mission qui est noble, celle de rendre la justice. Comme nous, les avocats, nous avons prêté un serment et nous servons tous le même idéal, voire une justice rendue pour chaque justiciable selon les principes du procès équitable. Et pour cela, il faut qu'il y ait un nombre de magistrats et de greffiers suffisant pour répondre aux besoins des justiciables. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle qu'en France, il y a à peu près 9000 magistrats professionnels, et alors que nous sommes 67 millions d'habitants, et qu'en 1880, il y avait à peu près 8000 magistrats pour moitié moins de la population. Donc vous voyez bien, c'est mécanique, compte tenu du nombre de magistrats par rapport à la population, compte tenu aussi du fait que, et c'est heureux, nous avons de plus en plus recours au droit, les effectifs de magistrats et de greffiers sont nettement insuffisants en France. À cela s'ajoute un manque de moyens matériels, des systèmes informatiques au sein des juridictions qui sont inefficients, qui ne sont pas efficaces. Et donc cela provoque une souffrance au travail chez les magistrats et les greffiers, et de manière indirecte, nous en subissons aussi les conséquences. Quand je dis nous, ce sont les avocats et leurs clients,
les justiciables. Bien sûr.
Et oui, car les magistrats aujourd'hui ne sont plus disponibles pour juger en formation collégiale, en première instance, et aussi en appel. Ils ne sont plus disponibles pour tenir des audiences selon le temps nécessaire pour que chacun puisse être écouté. Ils ne sont plus disponibles pour recevoir et écouter les avocats. Et donc tout cela provoque en chaîne des réactions désastreuses sur les conditions dans lesquelles est rendue la justice en France.
Alors effectivement, ce constat, il est synthétisé par une phrase qui est dure, où les magistrats qui s'expriment disent « Nous avons un dilemme, soit nous jugeons vite mais mal, ou nous jugeons mieux, mais dans des délais qui sont inacceptables. » Étant entendu que, effectivement, quand on se classe au niveau européen, la France est au 14e rang sur 27 pour les moyens alloués au budget de la justice. Et donc, on y revient toujours sur cette question du nombre de magistrats, de greffiers, de moyens matériels insuffisants. Qu'est-ce qui explique, la non prise en compte de cette situation qui est déjà ancienne par les différents gouvernements? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des tribunes, des grèves, bloquer les tribunaux?
Bon, on peut voir plusieurs raisons. D'abord, il y a peut-être un problème de culture judiciaire et de culture du droit dans notre pays. Il est vrai que l'exécutif prend mal en considération les besoins de la justice. Ça, c'est une certitude. Pour quelle raison? Peut-être parce que les fonctionnaires issus et les hommes politiques élus connaissent mal la justice, on en peur. Peut-être aussi qu'ils ne voit pas la nécessité de donner les moyens de fonctionner correctement aux juridictions. Toujours est-il que tant que les magistrats et les greffiers, mis à part leur syndicat, restaient silencieux, enduraient en silence ces conditions de travail détestables et négatives, tant pour eux que pour les justiciables et les avocats. Tant qu'ils restaient silencieux, les choses avaient peu de chances de bouger. Nous, les avocats, nous dénonçons, nous sommes beaucoup plus libres dans notre parole. Et donc, nous dénonçons depuis des années cette situation. Mais il est vrai que tant que les magistrats et les greffiers en grand nombre ne s'exprimaient pas sur cette question, eh bien, il était difficile de faire bouger le gouvernement et le Parlement dans le bon sens. Aujourd'hui, que les magistrats et les greffiers s'expriment de manière forte et non seulement donc pour écrire des tribunes, mais vous avez noté qu'il y a également les chefs de juridiction qui se sont exprimés à travers des lettres ouvertes adressées au garde des Sceaux. Vous avez noté la motion qu'a votée la Cour de cassation, c'est historique. Vous avez noté également les déclarations de tous les syndicats d'avocats, de magistrats. Bref, il y a vraiment une union de tous les professionnels de la justice pour que le gouvernement, d'abord, prenne en compte la réalité des choses, arrête de dire que parce qu'il y a eu une petite augmentation du budget des juridictions, les choses auraient été réparées, ce qui est tout à fait faux. Donc arrête une communication qui n'est pas adaptée à la réalité. Et puis ensuite, il nous faut des actes, et des actes concrets. Donc le Conseil national des barreaux a proposé dans une motion de soutien lors de son Assemblée générale du 10 décembre dernier, a proposé que les chefs de juridiction, les syndicats de magistrats, de greffiers, ainsi que les bâtonniers, fassent un inventaire des besoins en ressources humaines et en moyens matériels dans chaque juridiction. Il semblerait là, si j'en crois les propos du garde des Sceaux tenus hier lors de sa conférence de presse, que cette demande ait été entendue au moins pour le nombre de magistrats. Il n'a pas évoqué les besoins en greffiers et en personnel de justice. Ça, nous devons le lui rappeler, que c'est important de compter aussi les besoins en greffiers et en personnel de justice qu'il nous faut, qui sont nécessaires. Mais cet inventaire, il doit être fait avec tous les professionnels de la justice, et je pense qu'il faut y associer également le comité de pilotage des états généraux de la justice, qui doit se consacrer en priorité à cette affaire des moyens, avant de parler de toute autre réforme procédurale.
Alors c'est justement la principale critique qui était faite aux états généraux de la justice qui se sont ouverts le 18 octobre dernier à Poitiers, c'est qu'on n'était pas principalement sur les questions de moyens, mais plutôt sur les questions de procédure. Et donc finalement, le gouvernement ouvre un peu ce chantier en fin de quinquennat, mais il est, selon une partie importante des personnels de justice, un peu à côté du sujet. Est-ce que c'est justement peut-être l'occasion d'élargir un petit peu le spectre des sujets à aborder au sein des états généraux de la justice et éventuellement de préparer une remise à niveau des moyens avec la perspective aussi de l'élection présidentielle et aussi donc d'inscrire ce sujet à l'agenda politique, ce qui est rarement le cas, répétons-le, dans les élections présidentielles.
Oui, tout à fait. C'est l'objet de la tribune que nous avons publiée, Thomas Clay et moi-même, dans le journal Le Monde, dans son édition du 14 décembre. Nous pensons qu'effectivement, les états généraux doivent se consacrer, de la justice, doivent se consacrer de façon prioritaire à la question des moyens. Tous les autres sujets, à mon avis, doivent être laissés de côté, pour l'instant, afin de consacrer les efforts de ces états généraux en premier lieu sur la question des moyens. Et je vais vous expliquer la raison principale à cela. C'est que les lois de procédure qui vont être votées dans les années à venir vont dépendre directement du budget alloué par l'État aux juridictions. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des justiciables, vous aurez des lois de procédure qui fermeront l'accès aux juges, qui réduiront la durée des audiences, qui prévoiront que les audiences se tiendront à juge unique et non plus de manière collégiale. Et si vous avez des moyens mais suffisants pour allouer aux juridictions pour répondre aux besoins des justiciables, eh bien vous aurez des lois de procédure différentes qui permettront un meilleur accès aux juges, qui permettront à ce que les parties et leurs avocats soient entendus dans des audiences respectueuses des délais, des principes du procès équitable, et qui permettront aux juges de juger dans des délais raisonnables.
Oui, parce que vous avez aussi eu dans cette tribune avec Thomas Clay des mots très forts, parce que vous dites « la justice implose, il est urgent de la sauver », et ensuite vous soutenez effectivement la nécessité aujourd'hui de donner des moyens à des magistrats qui aujourd'hui, vous le dites, n'ont plus le temps d'écouter, surtout en formation collégiale, sont débordés par la masse de travail, contraints de faire de l'abattage du jugement pour respecter une productivité imposée par le ministère de la Justice. Et vous terminez, cette culture du chiffre fait mal, elle n'a plus rien à voir avec le droit au juge. C'est un constat sévère.
Tout à fait. Donc vous voyez combien la question des moyens est centrale et qu'aujourd'hui on ne peut plus l'écarter, et je pense que le gouvernement est en train de prendre conscience de cette nécessité, mais encore faut-il qu'il sorte d'un exercice de pure communication et qu'il fasse des propositions concrètes et chiffrées.
Alors il y a quand même un paradoxe. On peut quand même le relever, c'est que d'une part, ces deux dernières années, le budget de la justice est en augmentation significative, ce qui n'était pas le cas dans le quinquennat précédent, où il n'y a eu quasiment pas d'augmentation, et je pense on pourrait remonter sur plusieurs quinquennats, et c'était pas une priorité budgétaire. Et en plus, le gouvernement lance, même si c'est à la fin du quinquennat, des états généraux, donc bon, ils ont peut-être pas encore pris complètement conscience, mais il y a quand même, une, semble-t-il, une volonté politique un peu plus forte que ce qui avait été fait dans les années qui précédaient.
Oui, enfin, j'entends ce discours. Mais d'abord, je tiens à vous faire remarquer que si le président de la République a décidé de lancer des états généraux au printemps dernier, c'est parce que les plus hauts magistrats de notre pays, François Molins et Chantal Arens, procureur général de la Cour de cassation et première présidente de la Cour de cassation, ainsi que les avocats, ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la justice et des conditions de travail des magistrats. Donc, nous nous attendions à ce que la question du budget soit mise à l'ordre du jour de manière prioritaire dans ces états généraux. Or, cela n'a pas été le cas. Donc, certes, il y a eu une légère augmentation, mais je tiens aussi à vous faire remarquer que cette augmentation, elle a été dirigée d'abord vers l'administration pénitentiaire et non pas vers les juridictions.
C'est vrai.
Qu'il y a eu une baisse des postes à pourvoir pour les auditeurs de justice. En bref, le gouvernement ne peut pas se prévaloir aujourd'hui d'un résultat satisfaisant,
oui.
comme le ministre a cru pouvoir le faire il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il tient un discours un peu différent. Mais voyez, donc il faut être prudent et c'est bien normal que nous soyons méfiants. C'est au gouvernement de montrer par des propositions concrètes et chiffrées, des engagements, que les besoins sont bien pris en compte.
Eh bien, j'espère que le message sera entendu. Merci beaucoup,
merci.
Mathieu Boissavi. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et New York, vice-président de la commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux et auteur, effectivement, il y a quelques années déjà, d'un livre qui finalement est d'actualité, Reconstruire la justice, avec votre confrère, puisque maintenant il y a l'avocat, Thomas Clay. Et on vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans l'émission « Et si on en parlait ?». Et on vous remercie et on dit à très bientôt. On a encore une dernière émission avant les fêtes, la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.